Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était prêt à venir nous raconter ce soir, et il a pris l'occasion du cours qu'il a donné toute l'année à Utrecht, enfin plutôt une demi-année, je crois,
oui,
à Utrecht, sur les utopies. Donc voilà, c'est dans ces circonstances que moi, ça me convenait très bien, et j'espère que vous aussi, ça vous conviendra très bien. Je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Et je dois dire, c'est une occasion tout à fait spéciale. En arrivant ici, je me suis dit, une conférence ici, j'ai regardé dehors, j'ai vu un écureuil.
Oui.
Vous l'avez vu aussi? Jamais vu ça. Où on va faire des conférences, il n'y a pas des écureuils. Ici, ça va ensemble. C'est fantastique. Alors, les utopies. Je vais vous parler des utopies, pourquoi c'est important, mais aussi quels problèmes il y a. Et je vais faire ça en quatre étapes. Premièrement, où est né le terme utopie, quand, qu'est-ce que ça signifie, quelle variété d'utopie il y a, et un peu, disons... les utopies au XXe siècle. Ensuite, partie la plus importante, les utopies actuellement. Quelles sont les caractéristiques, pourquoi elles sont les utopies sont importantes. Ensuite, je vais vous offrir deux exemples venant du climat et de l'intelligence artificielle, et une brève conclusion. Voilà, donc quatre parts. Je commence avec le premier. Au XVIe siècle, un humaniste anglais, Thomas More, a publié un roman avec le titre « Utopia ». Et dans ce roman, il décrit, selon disons, le format de l'époque, c'était publié en 1516. Donc, ça fait bien un moment. Dans ce roman, il y a des voyageurs, ils rencontrent quelqu'un, et dans la deuxième partie, ce voyageur décrit ce qu'il a connu, une île qui s'appelle Utopia, où on vit en paix, c'est assez rationnel, assez productif, il y a propriété commune, mais si on commet exceptionnellement, apparemment c'est très rare, des crimes sérieux, on devient esclave. Et aussi les prisonniers de guerre sont aussi des esclaves. Utopia et le nom de la personne qui raconte ça, ça veut dire Utopia, c'est no place. C'est pas une place qui existe. Et la personne qui raconte ça, un voyageur, il a un nom qui traduit en français un petit. Quelqu'un qui raconte des histoires un peu fous, un peu folles. Hein? En fait, on ne peut pas vraiment avoir confiance. Donc, est-ce que c'est vraiment une utopie? Actuellement, on pense, en général, que c'était plutôt une satire sur certains aspects de l'Empire anglais et pas une utopie au sens qu'on l'utilise actuellement. Mais quand même, le terme nous est venu de cette période. Alors, qu'est-ce que ça signifie, utopie? D'abord, c'est une histoire, un narratif. Et comme vous savez, nous, les hommes, nous sommes des conteurs d'histoires. Hein? Et c'est seulement en racontant des histoires quotidiennement, en petit, en grand, qu'on donne sens aux choses, qu'on élabore aussi des significations et qu'on développe des dispositions d'action. Donc c'est très très important d'avoir des histoires. Donc pour ça, c'est très important qu'un nouveau genre d'histoire, à savoir les utopies, a vu le jour. Hein. Et il faut dire que les utopies, c'est vraiment quelque chose des temps modernes. Hein. Il y avait des quasi-utopies concernant, par exemple, liberté et démocratie dans l'ancienne Grèce et dans le Rome ancien, mais limitées et problématiques selon notre vue actuelle. Mais bon, les utopies au sens moderne, ça commence à partir de la Renaissance et des temps modernes, quand on pense à un futur que les hommes peuvent créer. Et en ce sens, les utopies, c'était très important. Mais il y a une certaine variété d'utopies. Il y a les utopies dites noires. Hein. Ça va mal finir. Hein. Et ça, c'est appelé les dystopies. Les dystopies, et on en rencontre de plus en plus, et vous allez voir aussi dans les exemples que je vais donner, c'est les dystopies sont assez dominants. Il y a aussi des utopies qui reprennent quelque chose du passé pour le projeter dans le futur. On appelle ça les rétrotopies. Et il y a toutes sortes de mouvements, groupements et partis dans les différents pays européens, et je ne sais pas si en France ça existe aussi, qui idéalisent des éléments du passé, du 19e ou du 17e siècle, je ne sais pas quoi, et projette ça comme norme, comme quelque chose désirable à faire. Donc ça, ce sont les variétés. Hein. Et le grand problème, bien sûr, de voir quel genre d'utopie donne vraiment une perspective. Et on a développé au cours de la modernité toutes sortes de grandes utopies, des grandes histoires, des grands narratifs sur le progrès, sur la croissance économique, sur la démocratie, etc., etc. Il y a ces histoires, en partie avec une version utopique, il y a certainement, au XXe siècle, deux utopies qui ont dégénéré dans le mouvement socialiste et communiste avec l'Empire soviétique et d'autres, et le nationalisme avec le fascisme dans l'Italie, l'Espagne et surtout l'Allemagne. Donc, le sort des utopies au XXe siècle était finalement très problématique, ce qui a fait que vers la fin du XXe siècle, les utopies sont considérées mortes. On n'en veut plus. Les utopies, ça crée une vision d'une société totalitaire. Totalitaire parce que totalement élaborée, plein de normes et de règles qu'il faut suivre pas à pas Non. Alors le sort des utopies était très mauvais à la fin du siècle passé, à cause de ça. Et vous connaissez bien sûr l'histoire de Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Nous avons gagné, et voilà. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Hein. Alors, je commence avec la deuxième partie, la partie la plus importante, sur les utopies actuellement. Pourquoi les utopies actuellement sont-elles importantes? D'abord, je pense que les grandes histoires, les grands narratifs qu'on connaît, comme croissance économique, comme développement de la civilisation, comme démocratie, tout ça, c'est un peu problématique. Hein. Ça commence à être moins évident. Ça commence à être contesté de plus en plus. Aussi, toutes les recherches montrent que la démocratie dans le monde, dans tous les pays, est devenue un peu plus problématique hein, qu'il y a encore 10-20 ans. La croissance économique est aussi problématique, en partie à cause du climat. Qu'il y ait une sorte de développement civilisationnel, il y a aussi des doutes et plein d'autres doutes. Ce qui fait que on a vraiment besoin, pour ne pas tomber dans un désespoir et dans une inaction, d'avoir des histoires qui donne une signification et donne des dispositions d'action pour s'engager dans quelque chose. Mais à quelles conditions? Et là, les discussions montrent que les nouvelles utopies doivent avoir un certain nombre de propriétés. Et jusqu'à maintenant, ça existe. Et ça commence à être de nouveau un paysage assez vivant de toutes sortes de petites utopies. Pas des grandes, pas totalement élaborées. Hein. Donc, ces nouvelles utopies, elles sont partielles, premièrement. Partielles parce que pas totalement élaborées, pas perfectionnées, reste beaucoup à faire. Deuxièmement, et beaucoup d'auteurs sont d'accord là-dessus, ces nouvelles utopies doivent être plus ou moins réalistes. Plus ou moins réalistes, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que ces utopies soient soit partiellement réalisées, soit partiellement réalisés, oui, et deuxièmement, qu'ils sont basés sur des bonnes informations, que ces histoires partielles sur un avenir tiennent compte de ce qu'on sait actuellement, ce qu'on sait personnellement, mais aussi ce qu'on sait socialement, économiquement, politiquement, et ce qu'on sait scientifiquement. Et ça, c'est très problématique, parce que là, il y a une grande lutte engagée actuellement sur ces thèmes. Et je vais en dire beaucoup plus. Et la troisième condition, c'est que ces nouvelles utopies partielles, à côté d'être partielles et bien informées ou plus ou moins réalistes, doivent, ne devraient pas être comporter une morale ou des normes totalement élaborées. Mais ça fait déjà partie, en fait, de partiel, hein, mais je le mentionne à part, parce que souvent, ça vaut la peine de souligner cet aspect. Ici, je voudrais surtout entrer sur un point d'être bien informé. Parce que là, je crois, la plus grande lutte actuellement est engagée sur les informations. Et si on dit bien informé, bien sûr, on voudrait que ça soit vrai, plus ou moins vrai, qu'il y ait des preuves plus ou moins adéquates. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Quel type de vérité connaissons-nous? Et quelles preuves? Et c'est ça que je voulais en parler. Ça, c'est très, très important si on veut s'occuper et voir quelles utopies valent la peine ou quelles utopies partielles valent la peine de considérer. Alors, si on parle de vérité, il y a bien sûr, d'abord, on pense à les mathématiques. Hein. Il y a des preuves depuis les vieux Grecs. Et vous avez tous aussi à l'école vu des preuves. Mais ces preuves, c'est pour tout le monde et pour personne. Hein. Ce n'est pas quelque chose situé socialement, ou personnellement ou historiquement. C'est une fois fait, c'est... Comment on explique ça? Là, peut-être comme piagétien, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je ne veux pas entrer dans les détails et je veux laisser de côté, parce que ça, c'est finalement pas un aspect de vérité qui entre dans ces luttes. Là, il y a accord. Hein. Ensuite, il y a les vérités et les preuves concernant les vérités personnelles. Par exemple, j'ai dit, j'ai vu un écureuil. Et quelqu'un, je crois vous avez dit, vous avez vu. Ça, je pourrais mentionner, c'est une preuve. Hein. Mais c'était situé hein, à 18h50. Moi, j'ai vu un écureuil et cette personne l'a confirmé. Hein. Ça, c'est une vérité. Hein. Une vérité, mais située, valable seulement pour les personnes présentes. Si je la raconte plus tard, je devrais prendre note et je ne sais pas quoi. Donc, dans le domaine personnel, il y a des vérités où il y a des preuves directes. Hein. Vous connaissez tous les preuves, si je peux me mettre sur ma tête, dites-moi, fais-le, et je le fais, mais je ne vais pas faire. Hein. Et si je réussis, j'ai fourni de la preuve. Hein. Ça, c'est évident. Ça, c'est relativement facile. Mais maintenant, commencent les choses difficiles, où il y a vraiment la lutte. C'est dans le domaine socio-politique et économique. Parce que là, bien sûr, il y a aussi des vérités que nous, comme citoyens, comme consommateurs, comme travailleurs, comme pensionnés, comme dans mon cas, comme retraités, on a une certaine expérience. En quoi consistent ces vérités? Ces vérités, finalement, reviennent toujours à des déclarations, à des actes de langage déclaratifs. Et un acte de langage déclaratif, vous savez peut-être, c'est un acte de langage par lequel on change l'état du monde. Vous êtes peut-être étonné, mais un juge, hein, à la fin d'un procès, si c'est bien conduit, hein, selon les règles, et ensuite, il prononce le jugement, vous êtes trouvé coupable et, je ne sais pas, 3 ans de prison. dans l'instant même, la personne se transforme d'un accusé en un condamné. Hein. C'est une transformation de l'état du monde.
Hein. Informatif.
La même chose pour les élections. Les élections, on compte les voix, il y a des procédés, il y a des correctifs, il y a des organes qui contrôlent ça, et ensuite ça passe à une instance, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, il doit y avoir aussi une instance qui finalement dit, voilà, ce sont les résultats des élections. Et c'est une vérité déclarée. Hein. Maintenant, cette vérité ne correspond pas forcément strictement à ce qui s'est passé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par-ci, par-là, des tricheries. Hein. Tout ça dépend de la solidité des institutions, de la confiance dans les institutions et comment ces règles sont suivies. La même chose pour le juge. Si le juge se réveille la nuit et dit « je le condamne », non, ça ne compte pas. Hein. Il faut que sa robe et qu'il soit en lieu, en place, suivant la procédure. Seulement, dans ce cas-là, c'est valable. Hein. Et ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il n'y a peut-être pas une erreur. Hein. On connaît tous des cas où il y a des condamnés, après coup, on se rend compte. Finalement, non, ce n'était pas cette personne-là, mais quelqu'un d'autre. Hein. Mais, ensuite c'est compliqué, mais on peut réviser ça. Hein. Élection difficile. Hein. Donc vous voyez, dans le domaine socio-politique et économique, ce sont ces déclarations qui créent des vérités, mais c'est des vérités différentes des vérités dites mathématiques et des vérités dites personnelles. C'est des vérités d'un ordre tout à fait spécial qui dépendent de l'état des institutions, des organes de contrôle, des procédures suivies, etc. C'est ça qui fait dans ce domaine, il y a beaucoup de contestations. Parce que s'il y a une partie des citoyens, des travailleurs, des concernés, disons, qui n'ont pas confiance dans ces institutions, qui n'ont pas confiance dans les procédures, alors là, comme aux États-Unis, comme Trump, peut-être là, non. Je n'ai pas perdu les élections. Et il y a beaucoup de gens qui le croient. Je ne sais pas si quelque chose comme ça existe aussi en France, hein, mais je ne crois pas à ce point. Hein. Mais bon, je passe à la quatrième sorte de vérité épreuve. C'est la science. Dans les différentes disciplines scientifiques, on essaie d'élaborer des théories qui, plus ou moins, correspondent à la réalité. Hein. Donc, qui représentent une sorte de vérité. Hein. Mais cette vérité n'est pas du tout absolue. C'est ce qu'on a cru jusqu'au 19e siècle. On croyait que, vraiment, la physique, les lois de Galilée, de Newton, c'était la vérité. Hein? Mais on a découvert, c'est pas vrai. Hein? Il y a des histoires fantastiques, mais j'ai pas le temps de raconter, je fais juste allusion. On a constaté les irrégularités dans les planètes de certains astres. Et on a calculé que si on postule un autre astre, on peut corriger ça. Et ça a marché une fois. On a découvert Neptunus de cette manière. On a calculé s'il y a telle ou telle place, et ensuite on l'a observé. Et la même chose s'est passée plus tard, vers la fin du siècle. Mais là, on a aussi postulé une planète, mais on ne l'a jamais trouvée. Et on a seulement on pouvait seulement expliquer ça par les corrections qu'Einstein a effectuées sur les théories de Newton. Donc vous voyez, même dans la physique, une totale correspondance de théorie à la réalité, non, on n'a pas. On ne sait pas. Et selon les disciplines, la distance est encore beaucoup plus grande. Donc, vérité, c'est problématique. Hein. Il y a une certaine approximation, disons, mais pas plus. Hein. Et l'épreuve, c'est jugé en science par les pairs. C'est ça la liberté de la science, que le contrôle n'est pas effectué par le pape ou par le président de la République, mais par les collègues. C'est bien sûr pas un système parfait. Il y a toutes sortes de tricheries, il y a toutes sortes de convenances, il y a toutes sortes de facilités. On peut s'arranger avec tes collègues, tu me donnes tel, justement, moi je te fais ça, maintenant, ton nom, on dit comme ça, non? Tout ça existe, mais quand même, c'est un système fantastique qui marche relativement bien, hein, qui marche relativement bien. Beaucoup de tricheries sont relativement vite découvertes. Des théories, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un sociologue français, Bourdieu, qui l'a dit, les différentes disciplines sont plus ou moins autonomes selon si ces disciplines peuvent déterminer entièrement leur programme de recherche. Donc, ce sont moins dépendants de financement. Hein. Et certainement, c'est le cas que les petites sciences naturelles, il y a plus de contrôle par le père que dans les sciences sociales et humaines. Hein. Mais bon, ça existe quand même. Il y a quand même un contrôle. Hein. Et c'est la meilleure chose qu'on a. Mais c'est tout à fait différent du contrôle dans le domaine que j'ai appelé le socio-politique et économique. Et c'est sur ces terrains, malheureusement, il faut constater qu'actuellement, il y a une lutte énorme. Et je ne peux pas entrer dans les détails, mais avec les soi-disant fake news et théories de complot et manque de confiance dans les instances politiques, ça fait que les vérités problématiques, hein, scientifiques, et les vérités dites socio-économiques, beaucoup de personnes ne les croient pas. Selon les statistiques, ça varie de 15 à 40, 50 % dans les pays européens. C'est quand même énorme. Hein. Et ça, c'est tragique. Hein. Parce que les utopies devaient être soit partiellement réalisées, comme démocratie, c'est partiellement réalisé, ou et bien informées. Mais bien informées, s'il y a un tel pourcentage de la population, des citoyens, des travailleurs, qui n'y croient pas, problématique. Hein. Donc c'est là, c'est vraiment le plus grand problème actuellement pour développer des utopies qui porte un espoir, qui donne un espoir, qui donne, disons, envie de s'engager dans quelque chose, d'élaborer des dispositions d'action. Mais bon, le problème est que là, malheureusement, il est très très difficile d'agir et j'ai bien sûr pas le temps d'entrer dans le détail parce que ça nécessiterait toute une discussion des relations de pouvoir existantes dans nos sociétés actuelles pour comprendre pourquoi ces doutes, ces négations de ces vérités ou de ces preuves et le mélange entre la science et le sociopolitique aient un tel effet. Mais ça, peut-être dans la discussion, on peut y revenir. Mais je vois, avec le temps, je dois passer à mes exemples pour quand même vous illustrer un peu les choses. Alors, les exemples que je voulais vous présenter, c'est d'abord la crise du climat. Et deuxièmement, de, comment dire en français, intelligence artificielle. Alors, crise du climat. Comme j'ai dit, malheureusement, les dystopies deviennent de plus en plus importantes. Hein. Ça va mal finir. Hein. La Terre ne va pas être habitable ou au moins beaucoup de régions dans le monde, on ne pourra plus vraiment y vivre. Il y aura des quantités énormes de migrants et de réfugiés. Ça va créer un désordre pas seulement économique, mais aussi politique et probablement militaire. Enfin, vous connaissez les différentes variantes de ces dystopies que vous trouvez tout le temps, et surtout dans des blagues. Comme quelqu'un dit « Bon, après moi le déluge hein? » ou des personnes qui disent « Bon, si on a... »50 ans ou plus, on ne va pas connaître le pire de ce qui arrive. Ce qui est finalement pas mal. Hein. Alors, ces dystopies, malheureusement, c'est très important. Deuxièmement, il y a toutes sortes... D'espoir dit technologique. Les hommes, la science, créent des savoirs qu'on peut transférer en technologie, et ces technologies vont nous permettre de résoudre tous ces problèmes. Hein. Et il faut dire, en partie, c'est vrai, hein, en partie. En partie parce que, même en venant de Metz ici, on voit sur les collines, on voit des... Comment on dit les... Voilà, il y a des... On voit de plus en plus aussi des panneaux solaires. Donc il y a déjà des solutions qui sont adoptées et de plus en plus. Mais il y a aussi des projets disons en partie problématiques et dangereux et en partie peut-être donnant un espoir. Hein. Je parle d'abord du premier. Vous savez que la fusion atomique donc le gagner de l'énergie, de la fusion, ce qui n'est pas problématique, ça ne crée pas des déchets. Pour la première fois, il y a pas 6 mois, on a réussi à créer plus d'énergie par un processus de fusion qu'on a utilisé. Mais peu, hein. Donc la solution, c'est certainement pas pour demain. Hein. Mais qui sait. On a déjà développé des matériaux, qui sont aussi des panneaux solaires. Hein. On pourra ensuite charger le téléphone comme ça. Autre chose. Hein. Donc il y a toutes sortes de choses où on espère de trouver des solutions bientôt sans être vraiment sûr. Hein. Il y a des nouvelles méthodes d'utiliser des marées pour créer de l'énergie, qui sont déjà utilisées, mais pas encore à un point expérimental. Hein. Donc, il y a des voies, peut-être, qui donnent un espoir. En science, on ne sait jamais, il faut donner la liberté d'explorer. Hein. Il y a aussi des choses beaucoup plus problématiques. Vous savez, il y a aussi des projets où il y a aussi des recherches engagées, sérieuses. Hein. C'est de mettre du sel dans les nuages pour les rendre plus blancs. Comme ça, les hauts nuages reflètent le soleil, ce qui fait que la Terre chauffe moins. Problématique. Hein. Il y a même un projet, et là aussi il y a des recherches sérieuses engagées, c'est créer artificiellement une espèce de parasol. Un parasol qui protège toute la Terre des rayons solaires. Ce qui peut être, selon certains, très très problématique. Hein. Parce qu'on ne sait pas en quoi on s'engage. Parce que, et on ne sait pas si c'est réversible. Donc c'est... Il y a aussi des recherches engagées et aussi déjà faites pour mettre, je crois que c'est du fer, une combinaison, je ne sais pas quoi exactement, dans les océans. Pour elles deviennent vertes. Et de cette manière, peuvent absorber plus de gaz. Aussi très problématique, très contesté. Je ne sais pas, moi je. J'hésiterais beaucoup de donner mon accord à vraiment appliquer ces solutions. Hein. Mais bon, qui suis-je? Les personnes disent, mais si on n'a pas d'autre solution, si on ne fait pas de recherche, alors on ne saurait pas quoi faire une fois que le pire est en train d'arriver. C'est ça l'argumentation de ceux qui sont engagés dans ces recherches. Mais... Moi, j'ai mes doutes. Hein. Il y a troisièmement toutes sortes d'espoir ou utopies qui sont inspirées par une réflexion sur le rapport à la nature de certains dits peuples plus primitifs ou ayant un rapport sain avec l'environnement. Je crois bien que ça a existé, hein, mais je ne crois pas du tout que que ça, ça pourrait être généralisé pour toute l'humanité. Peut-être, et là, quand même, je fais déjà un grand pas, il ne faudra pas complètement rejeter ça. Il faudra peut-être voir si par-ci, par-là, on ne peut pas tirer un certain enseignement de ces modes de vie qui ont été pratiqués ou en partie sont encore pratiqués par-ci, par-là, par certains groupes dans le monde. Pourquoi pas, hein? Et à quatrièmement, des histoires, des utopies dites un peu mythiques, spirituelles. Vous savez, si on embrasse un arbre, hein, c'est beau. On trouve un sort nouveau, une paix avec la nature. Ah, j'ai encore vu l'écureuil, est revenu. Pourquoi pas, hein? Mais il faudra dire, il ne faut pas être naïf, hein? Parce que nous, les humains, nous faisons partie de la nature. Hein? Et ce n'est pas quand nous, on peut trouver un autre rapport à la nature, ce serait aussi trouver un autre rapport à nous-mêmes. C'est beaucoup plus compliqué. Je réfère au philosophe qui est mort récemment, Bruno Latour, qui a élaboré ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là, vous trouvez toute une élaboration de ça. Donc, ce n'est pas... Oui, ça va. Oh. Voilà. Alors, ces quatre sortes d'histoires, hein, dystopie, technologie, les rétrotopies et le spirituel, en soi, isolées, aucune de ces utopies partielles n'est satisfaisante. Moi, je crois qu'il faudrait être ouvert à certains aspects de l'un ou l'autre. Parce que, certainement, il y a des choses qui vont changer. Hein. On ne garde pas la Terre comme elle est. Il y a déjà des espèces qui disparaissent. Il y a déjà un réchauffement. On ne va pas pouvoir l'arrêter complètement. Hein. De chaque dixième de degré, c'est quelque chose de gagné. Mais combiné avec certaines solutions technologiques, qui vont certes avancer et être, je crois, très prudent, hein, surtout les nuages, hein, le parasol autour de la Terre, et le verdir les océans. On va faire attention. Hein. Et le spirituel, comme c'est formulé, je dois dire, je trouve relativement naïf. Mais c'est vrai qu'il faut avoir trouvé un rapport différent avec nous-mêmes et avec les autres et avec l'environnement, y inclut les plantes et les bêtes. Ça, certainement, c'est vrai. Mais quoi alors? Là, c'est le rôle de ces utopies partielles de les combiner. Et il y en a de plus en plus. Et certainement, sans vous en rendre compte, vous en connaissez des quantités. Mais si, comme c'est actuellement le cas, dans les discussions qui sont vite polarisées, vous vous mettez dans un camp ou dans l'autre, c'est problématique. Seulement, en connaissant ces problématiques, vous pouvez engager une discussion sur les difficultés, mais aussi les subtilités de ces utopies partielles qui peuvent être combinées de différentes manières. ça rend les choses compliquées. Je m'excuse, mais c'est ça le problème. Hein. Deuxième exemple que je voulais donner, c'est l'intelligence artificielle. Là, il y a, elle est déjà relativement vieille, cette utopie, c'est l'utopie dite de la singularité. Utopie de la singularité, ça veut dire que l'intelligence artificielle devient de plus en plus puissante et, selon les auteurs, en 2040-2050, va dépasser l'intelligence artificielle et les machines vont se rendre autonomes et les hommes sont écartés comme inutiles, pas nécessaires. Oui. C'est ça la singularité. L'intelligence artificielle va décider que on n'en a plus besoin de ces humains. Hein. C'est la version extrême. Hein. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement la capacité de calculer quelque chose, ce n'est pas seulement la capacité d'apprendre, comme actuellement le deep learning sur des échantillons, mais énormes. Hein. C'est tout autre chose. Mais je n'ai pas le temps d'y entrer. Donc moi, je n'y crois pas. Mais bon, hein, le vrai problème est qu'actuellement, ça utilise beaucoup, beaucoup d'énergie et ça facilite énormément le travail de ceux qui, pour des intérêts divers, distribuent des fake news et des théories de complot. Voilà. Deuxième exemple, c'est, je vais être très court parce que là, je sais moins, mais j'ai une amie qui travaille dans ce secteur. C'est, on dit en français, la réalité virtuelle. Réalité virtuelle qui se développe énormément. Hein. Il y a des investissements, mais des milliards. Vous savez que c'est très utile déjà, très utile pour la formation, formation de pilotes, etc. Très utile aussi dans certaines formes de thérapie, pour les peurs intenses, par exemple. La réalité virtuelle peut vraiment aider à ça. Mais la grande distribution est encore à un niveau relativement modeste, bien que pas à pas, ça avance. Mais le problème est qu'il faudra au moins que tout le monde ait facilement accès à un G5 de l'Internet. Et en fait, ils disent même G5 ne sera pas assez parce que c'est des programmes très très grands hein, qu'il faut mettre dessus. Hein. Donc il faut créer des réalités virtuelles dans lesquelles on peut se déplacer éventuellement avec une personne ou une bête à sa choix et s'engager dans des aventures fantastiques. Alors, c'est ça où beaucoup de producteurs, et vous savez, Meta, c'est la société mère, hein, s'est engagée là-dedans. Donc il faut que le réseau Internet soit révolutionné, mais ça va se passer. Hein, dans 5-6 ans, on aura d'autres possibilités. Et on aura des appareils aussi plus puissants pour faire ça. Donc dans 5 à 10 ans, on aura cette possibilité encore limitée de s'engager dans des aventures tout à fait virtuelles. Hein. pour échapper à cette merde, hein, de conflit et de climat. Ouf, on s'échappe. Ce que je trouve relativement problématique, hein, mais il y a vraiment des milliards qui vont là-dedans, et ça a déjà un effet, hein, parce que ça, bien sûr, ces milliards, ça a aussi contribué à ces, ce qui s'est passé ces derniers 6 mois avec les programmes pour écrire des textes, hein, des programmes pour modifier des photos, des programmes pour créer des œuvres artistiques, pour créer des pièces de musique, pour créer des bouts de films et de vidéos. Tout ça, c'est déjà possible. Hein. C'est grâce en partie à ces investissements que ça, c'est possible. Donc, c'est une utopie. Et je raconte maintenant le versant dystopique, hein, l'échappement. Mais ça tombe peut-être aussi des espoirs. Je ne suis pas contre d'explorer ça. Hein. Il ne faut pas fermer les yeux et dire non, non. C'est illusoire, je crois. Donc là aussi, il faudra être ouvert. Mais je vois que je dois passer à ma conclusion rapide pour laisser un temps à une discussion. Conclusion rapide, c'est il est extrêmement important ces utopies partielles, plus ou moins réalistes, bien informées, parce qu'eux, au moins, ils donnent un certain espoir et un engagement à l'action. Et ça, on en a vraiment besoin dans ce temps de grands doutes et de, disons, de découragement qui existe. Deuxièmement, et ça, malheureusement, c'est le message compliqué, c'est qu'il n'y a pas une simple, belle, grande utopie. Il y a une multiplicité de combinaisons de petites utopies et il faut accepter cette réalité, ce qui rend bien sûr la vie pas plus simple, mais peut-être plus intéressant. Je vous remercie de votre attention.